Je vous propose de faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, et nous lirons du verset 1er au verset 11. Jacob habita dans le pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit « Voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit « Que signifie ce rêve que tu as fait ? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Et j'ai une petite note dans ma Bible qui explique que le mot « incident » traduit ici est le même mot en hébreu que le mot « parole ». Jacob va garder en mémoire cette parole que Joseph, son fils, âgé de 17 ans, lui donne. Joseph, nous le voyons ici, est un jeune homme qui a tout pour réussir sa vie. Il est né au milieu d'une famille qui n'était pas dans le besoin. Il a un père qui l'aime même un petit peu trop. Il a une mère, il a des frères, des sœurs qui lui en font voir, mais comme on en fait toujours voir au petit dernier, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Enfin, je suis bien placé pour le savoir. Il est né dans une famille chrétienne où on lui a enseigné la crainte de Dieu. Ce jeune homme est beau, puisque plus tard la femme de Potiphar le remarquera. Il a tout, il a absolument tout pour réussir. Lorsqu'on poursuit le récit de la vie de Joseph, on s'aperçoit qu'il deviendra et qu'il est déjà un homme de Dieu tout à fait remarquable. Quelqu'un qui va marcher fidèlement avec Dieu malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les déceptions, malgré les tribulations, il ne rompra jamais l'alliance qu'il a conclue avec son Dieu. Il a une relation personnelle avec Dieu très tôt, puisque Dieu lui révèle ses deux songes. C'est étonnant. Et pourtant, la suite du récit de Joseph va être différente. On s'aperçoit que ses frères vont vouloir le tuer et finalement ils vont le vendre à une caravane qui ira le vendre en Égypte comme esclave. De là, il va aller en prison. Il sera jeté en prison. Ensuite, il sera oublié là, fond d'un cachot. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, au travers de tout cela, si les hommes ont cru que Joseph était mort, si les hommes ont pu oublier Joseph, Joseph restera toujours dans le cœur de Dieu. Et de la même manière, parfois nous pouvons nous sentir oubliés. Parfois nous pouvons nous sentir mis de côté. Mais il est une évidence, il est une promesse que nous devons serrer dans notre cœur. C'est que nous ne sommes jamais oubliés de notre Père qui est dans les cieux. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Pourtant, cet homme de Dieu extraordinaire est loin de moi de le fustiger. Je dirais qu'il a fait preuve de naïveté dans trois domaines dans sa vie. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous devons nous garder, nous-mêmes, eh bien, de faire preuve de naïveté dans ces trois domaines, afin que notre foi soit une foi mature, afin que notre foi soit une foi réelle, soit une foi authentique. Et c'est les trois domaines dans lesquels Joseph a pu faire preuve de naïveté. C'est premièrement la naïveté dans sa manière d'appréhender les promesses divines. Deuxièmement, la naïveté face au péché et à ses conséquences. Et troisièmement, la naïveté dans la confiance qu'il a donnée aux hommes. Premier point donc, la naïveté dans laquelle Joseph a appréhendé les promesses de Dieu. Nous venons de le lire dans ce texte, Dieu lui a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il lui a donné deux songes. Il lui a promis que son père, sa mère et ses frères viendraient se prosterner devant lui. Quelle drôle de révélation! Et Joseph va penser que finalement, cette promesse était une promesse qui tenait de l'instantané. Il va croire que cette promesse était pour maintenant et qu'elle avait pour but d'améliorer son confort de vie. Peut-être, se disait-il, mes frères arrêteront-ils de me persécuter puisque je leur révèle ce que bientôt les choses seront. Peut-être que mon père m'aimera encore un petit peu plus. Peut-être est-ce qu'il y aura de l'admiration dans leurs yeux en disant « Quel homme de Dieu notre frère sera !» Mais au lieu de tout cela, cela va générer de la jalousie auprès de ses frères et va accroître la jalousie qui était déjà présente et va susciter une dispute entre Joseph et son père. L'indignation, la jalousie de ses frères est certainement une pointe de déception dans le cœur de Joseph. Et cela génère une question dans mon cœur. Étant donné que nous savons que Dieu est celui qui dépose des promesses dans le cœur de ses enfants, Dieu est celui qui dépose des promesses dans le cœur de ceux qui veulent le suivre. Promesses universelles que l'on peut trouver dans la Bible, mais également promesses personnelles qui répondent à des questions que nous pouvons nous poser. Et il les dépose très tôt puisqu'il l'a déposé dans le cœur d'un gamin de 17 ans. Ton père, ta mère et tes frères se prosterneront devant toi. Quelle promesse glorieuse! Et mon frère, ma sœur, j'ai envie de te poser une question ce matin. Mon ami, j'ai envie de te poser une question. Quelles sont les promesses qui sont en germe dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a déposé au fond de toi? Parce que Dieu investit en nous. Dieu nous donne des certitudes. Dieu nous donne des promesses certaines. Quelles sont-elles? Et comment les gérer? Parce que nous voyons ici que Joseph, à cause de sa naïveté, va s'attirer bien des problèmes et quelque part risque d'hypothéquer ce que Dieu lui a donné. La première attitude, à mon sens, qu'il est nécessaire d'avoir face aux promesses que Jésus a déposées en nous, c'est la garder bien précieusement. J'aime beaucoup l'attitude de Jacob qui va se souvenir de cet incident, qui va se souvenir de cette parole. Cette parole va faire écho dans son cœur. Et de la même manière, Marie, la mère de Jésus, alors que son fils va lui révéler, va lui dire « Mais tu sais, moi je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père, hein, pas pour autre chose. » Le texte, l'évangile nous dit que Marie va garder toutes ces choses en elle et va s'en souvenir. Et j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Et j'aimerais exhorter le peuple de Dieu ce matin. J'aimerais moi-même repasser ces promesses que Dieu m'a faites dans mon cœur en me disant « Elles sont certaines. Elles sont certaines. » Vous savez, j'ai été appelé au ministère alors que j'avais 16 ans. Et je suis converti et j'ai grandi avec cette pensée. J'ai évolué avec cette pensée qu'un jour je servirai le Seigneur. Tantôt diffuse, tantôt précise, mais il y avait au fond de moi cette promesse que Dieu avait déposée. Parfois j'en ai douté. Parfois elle m'a fait peur. Parfois j'ai voulu la repousser. Mais très souvent, elle m'a servi en quelque sorte de béquille en me disant « Non, Olivier. » Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Il faut que tu agisses ainsi parce que tu es appelé à servir le Seigneur. J'ai connu un jeune homme qui souffrait terriblement de la solitude. Et pourtant, dans son cœur, Dieu avait déposé cette promesse qu'un jour, il trouverait sa moitié. Et bien des opportunités lui ont été offertes dans ce monde et il les a toujours refusées parce qu'il savait que Dieu aurait la solution. Et je crois de tout mon cœur, et effectivement la solution est venue aujourd'hui, eh bien ils sont mariés, ils ont 2 enfants et ils sont heureux comme tout. Je crois que Dieu parfois dépose des promesses en nous qu'il nous appartient de cultiver. Je crois que Dieu dépose des promesses en nous qui nous appartient de mûrir, qui nous appartient de faire grandir et qui nous protégeront des erreurs, qui nous protégeront des fautes et qui fortifieront notre foi. N'enterre pas la promesse, mais attends-la. N'enterre pas la promesse, mais attends-la. Elle est certaine. Ce que la bouche de notre Dieu a dit, sa main l'accomplit. La deuxième chose qu'il est nécessaire de faire pour bien gérer les promesses que Dieu a pu mettre dans notre cœur, c'est préparer l'accomplissement de cette promesse. Avant que le père, la mère et les frères de Joseph ne se prosternent devant lui, il était nécessaire que au moins quatre choses changent. Premièrement, Joseph devait changer et acquérir de la maturité. Le gamin de 17 ans devait devenir un homme. Et pour cela, il fallait qu'il prenne quelques coups sur la tête. Il fallait que Joseph change. Et pour que Dieu accomplisse ses promesses en nous, il faut parfois que nous-mêmes nous changions. Deuxièmement, il était nécessaire que les frères de Joseph, le père de Joseph, évoluent également. Et que quelque part, la culpabilité d'avoir tué leur frère, eh bien, soit une forme de terreau dans lequel la certitude, dans lequel Dieu puisse travailler, puisse planter des choses. Pour que certaines promesses se réalisent, il faut également prier pour que ceux qui sont concernés autour de nous changent. Troisièmement, il était nécessaire que l'Égypte soit prête à accueillir, que le cœur du Pharaon soit prêt à accueillir un homme tel que Joseph. Il fallait que les temps soient prêts. Il fallait que Joseph arrive avant cette période, cette année de vache grasse et ensuite cette année de vache maigre, cette année de famine, cette année de richesse, pardon, et cette année de famine. Le contexte socio-économique devait être prêt. Jésus n'a pas paru dans n'importe quel contexte économique, mais il a paru, à l'époque où les voies de communication étaient déjà établies. Il a paru à l'époque où il y avait des synagogues qui étaient répandues un petit peu partout en Europe. Il a paru à l'époque où il y avait une langue qui était à peu près commune, de manière à favoriser l'évangélisation ensuite. Et quatrième chose, et il faut bien se dire que nous préparons la promesse, mais que la promesse, elle n'est pas pour nous, uniquement, mais elle est pour l'avancement du royaume de Dieu. Si Joseph a été établi là où il l'a été établi, ce n'a pas été simplement pour lui, pour son bien-être, pour le bien-être de sa famille, mais ça a été pour le bien de son peuple et pour rentrer dans la globalité du plan que Dieu avait lui-même prévu. Prépare la promesse. Tiens-toi près de Dieu. Cherche ce que Dieu attend de toi. La promesse ne pourra se réaliser qu'à partir du moment où toi-même tu changeras et où tu te façonneras, où tu laisseras le Seigneur te façonner afin de rentrer dans cette promesse. La promesse ne s'accomplira pas d'une manière automatique, mais il faut que nous-mêmes, nous soyons prêts à l'accueillir. Parce que vous savez, je m'étends un petit peu sur le sujet. Promesse de Dieu, ça bouleverse une vie. Ça bouleverse une vie. Un couple qui m'est très cher, lorsque la femme a prié longtemps pour que son mari se convertisse. Puis elle vivait sa foi un petit peu en catimini, vous savez, gentiment, tranquillement. Je suis chrétienne, mais il ne faut pas trop bouger. Mais elle priait de manière sincère pour que son mari se convertisse. Et puis un jour, sa prière a été exaucée. Merci Seigneur, hein ? Et le mari s'est converti, mais il s'est bien converti. Il s'est très bien converti. Il a commencé à parler de Jésus de partout autour de lui. Et sa femme se dit, mais c'est pas comme ça que je pensais qu'il se convertirait, moi. Je pensais qu'il se convertirait à ma mode. Elle était un peu paniquée en se disant, mais c'est pas bien. Finalement, Dieu avait exaucé sa prière, mais l'accomplissement de la promesse avait tout bousculé, avait tout changé. Parce qu'elle-même n'était pas forcément prête à entrer dedans. Ou du moins, ça a chamboulé sa vie. Prépare-toi à l'accomplissement de la promesse. Ça fera trembler ta vie. Ça changera ta vie. Mais ça ne pourra le faire qu'à partir du moment où tu mets toutes les choses en place. Troisième chose dont il est nécessaire, pardon, de faire pour que la prière s'accomplisse, c'est de ne pas vivre au travers de la promesse. On s'aperçoit dans la vie de Joseph qu'il n'en reparle plus. Et que partout là où il y passe, sa seule préoccupation, c'est d'être fidèle à Dieu. Que ce soit dans la maison de Potiphar, où Dieu le fera réussir, que ce soit dans la prison, où le chef des gardes l'établira comme responsable, Il ne vit pas pour la promesse. Il ne vit pas au travers de la promesse, mais il vit pour l'auteur de la promesse. Et ça, ça change tout. Quel drame de finalement vivre une vie chrétienne qu'au travers de ce que Jésus nous a promis. Seigneur, tu m'as promis que je serai un serviteur, ton serviteur. Eh bien, je me focalise là-dessus. Mais on passe à côté de toutes sortes d'autres choses. Seigneur, tu m'as promis un travail. Merci Seigneur. Mais est-ce là-dessus qu'il faut focaliser? Non. Il faut regarder l'auteur de la promesse et regarder les choses dans leur globalité, encore une fois. Regardez non seulement ce que Jésus nous a promis, mais également ce que Jésus nous demande, également ce que Jésus veut nous donner d'autre. Regardez également ce que Jésus veut que nous fassions, veut que nous devenions. Et ainsi élargir notre périmètre et ne pas focaliser sur ce que nous rêvons ou sur ce que Jésus nous a réellement promis. Et quatrième attitude, et celle-là est évidente, priez pour. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'arroser une fleur avec du whisky? Vous pouvez essayer. Ce serait du gâchis d'ailleurs, aussi bien pour la fleur que pour le whisky. Et vous savez, les promesses de Dieu, il faut les arroser avec des choses spirituelles. La prière, notamment. Pries-tu pour la promesse que Jésus t'a donnée? La cultives-tu d'une manière spirituelle et non pas d'une manière un peu rêveuse, un petit peu fleur bleue? Entretiens-la comme une femme, comme un homme de Dieu. Et non pas comme une femme, comme un homme charnel. Alors, s'aperçoit que Joseph a quelque part mal géré la promesse de Dieu. Et on ne lui jette pas du tout la pierre. Là n'est pas mon propos. Parce que c'est loin d'être aussi simple que cela. Deuxième domaine dans lequel il a fait quelque peu preuve de naïveté, c'est face au péché. Alors, il va être vendu par ses frères, il va se retrouver dans la maison d'un homme qui s'appelait Potiphar. Et dans cette maison, eh bien, tout va lui réussir, encore une fois, parce que Dieu était avec lui. Puis, on ne sait pas combien de temps vont se passer, peut-être 5-6 mois, tout roule, tout va bien. Et tout d'un coup, ben, Madame Potiphar, elle commence à trouver Monsieur Joseph à son goût. Et le texte dit que tous les jours, Madame Potiphar va aller renouveler ses avances à Monsieur Joseph. Et puis, un jour, est-elle allée plus loin? Peut-être, mais Joseph va devoir s'enfuir, va devoir partir. Et là, on est en admiration devant l'acte de Joseph, qui manifeste notre attitude que nous devons avoir face aux péchés et face aux tentations qui sont devant nous. Mais, alors peut-être, ne serez-vous pas d'accord avec moi. Mais je me suis posé une question. Quelle a été l'attitude de Joseph tous les autres jours? On n'en sait rien. Donc on ne peut pas extrapoler. Comment a-t-il géré la tentation tous les autres jours? Comment a-t-il agi avec Madame Potiphar tous les autres jours? Je vous laisse méditer. Mais en tout cas, la Bible nous donne un mode d'emploi face au péché. Et avant de s'enfuir, il y a certainement choses différentes à faire. Première chose, c'est de prendre conscience que nous sommes environnés et que nous vivons au milieu d'un monde plein de tentations. Vous savez, on peut vivre simplement en vivant, quoi, en subissant les choses. Mais la Bible nous invite à être des hommes et des femmes qui restons vigilants, qui sommes vigilants. Il y a une grande différence entre voir une chose et regarder une chose. Je peux vivre dans un monde qui est plein de péchés sans, en le voyant simplement et sans le regarder. Mon frère, ma sœur, prends conscience que si le diable peut affaiblir ta communion avec Dieu, peut affaiblir ton efficacité spirituelle en mettant dans ta vie un péché, il le fera. Prends conscience qu'il est important de veiller sur ce que tu regardes. J'aime beaucoup ce texte de Job qui dit que Job avait fait un pacte avec ses yeux. On pourrait dire qu'on peut faire un pacte avec nos oreilles, un pacte avec notre langue. Tu fais un pacte. Deuxième attitude face au péché. Il est nécessaire non seulement de fuir, mais avant de fuir, d'éviter les tentations. Pour Joseph, c'était compliqué dans la maison de Potiphar, parce que Mme Potiphar, il devait la croiser. C'était sa patronne. Pour bien éviter les tentations, il est nécessaire de bien se connaître. Je ne peux éviter que les failles, je ne peux combler que les failles que je connais sur ma vie. Ensuite, il est nécessaire d'être suffisamment humble pour reconnaître ses fautes. Pas facile de dire, ça c'est mon problème. L'alcool, c'est mon problème. Telle chose, c'est mon problème. Le mensonge, c'est mon problème. Troisièmement, il est nécessaire de prévenir les risques. Un jour, je discutais avec un jeune homme qui avait un problème bien précis dans sa vie. Puis, je me souviens, dans mon bureau, j'ai donné une parole prophétique sans le savoir. Je lui ai dit, tu sais, tu es comme un alcoolique qui est devant sa bouteille. Si tu ne t'éloignes pas de ta bouteille, il t'arrivera des sottises. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Et je le dis d'une manière très solennelle, mais également avec plein d'amour et sans aucune once de jugement. Quelle est ta bouteille ? Si aujourd'hui tu résistes à Madame Potiphar, si aujourd'hui tu es capable de la tenir en respect loin de toi, demain ce ne sera peut-être plus le cas. Quelle est ta bouteille ? Quelle est ta Madame Potiphar à toi ? Je ne sais pas, on doit tous en avoir une, je pense, non ? Plus ou moins prononcé. Mais si vous ne trouvez pas de Madame Potiphar à vous, revenez au point 1. Au point 1, du point 2, du point 2. C'est-à-dire, nécessité de bien se connaître, et au point 2, du point 2, du point 2, qui est nécessité d'être suffisamment humble pour reconnaître. Ah, Madame Potiphar n'a pas besoin d'être proche de nous. Mais il lui suffit simplement d'être présente. Et vous inquiétez pas, elle saura rentrer. Et puis quatrième attitude à avoir face à cette Madame Potiphar, c'est de lui résister, c'est ce qu'a fait Joseph. J'aime beaucoup les mots que Joseph va utiliser en disant « Je ne pourrai pas pécher contre mon maître et je ne pourrai pas pécher contre Dieu. Mon maître a tout mis entre mes mains. » Et je ne pourrai pas faire ça à mon Dieu. La conscience que Jésus est mort pour nous et qu'il nous a aimés, c'est quelque chose que l'on doit cultiver. Parce que ça nous tiendra contre le péché. Et contre toutes les Madame Potiphar qui s'approcheront de nous. Et cinquième attitude, parfois il est nécessaire d'arracher. C'est ce que dit l'évangile de Matthieu. Hein. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien coupe-le, arrache-le. Il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume des cieux plutôt que de ne pas y rentrer du tout. Et ça fait mal d'arracher. Hein. Ça fait mal. Parfois, il faut le faire. Parfois, il faut le faire. Et puis, troisième point où Joseph a fait peut-être preuve de naïveté, c'est quand il va mettre son soutien dans les hommes. Et Joseph a appris, est né dans une famille où on lui a appris à toujours mettre sa confiance dans les hommes. Son papa le chérissait, le badait. Oh, Joseph, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau. Et puis il est gentil, il n'est pas comme ses frères. Puis il est bien utile, il travaille bien. Alors je lui offrirai une tunique multicolore qui symbolisait l'enfant préféré. Il va être tellement aveuglé et faire preuve de naïveté également lorsqu'il ne va pas remarquer la jalousie de ses frères. Et on sait que la Bible dit que la jalousie conduit au meurtre. Puis, lorsque Madame Potiphar va le tenter et qu'il va fuir, Monsieur Potiphar ne va pas être content du tout. Et il va se retrouver en prison, Joseph. Et en prison, là aussi, le Seigneur va le bénir, vous pourrez le lire dans le texte, il va être rejoint par deux collègues, un échanson et un panetier qui servaient à la table du roi. Et puis, les deux vont avoir un songe. Et là, l'échanson va être libéré. Joseph va interpréter le songe, etc. Ça va se réaliser comme Joseph va le dire, et l'échanson va être libéré alors que le panetier, lui, va être tué. Et Joseph va dire la chose suivante à l'échanson. Souviens-toi de moi lorsque tu seras auprès du roi. Et la suite du texte nous dit que l'échanson va l'oublier. Voyez-vous, on peut faire confiance aux hommes pour sortir de nos prisons parfois. Et nos prisons peuvent être multiples. Le corps, la dépression, le mal-être, la souffrance. On peut faire confiance aux hommes. Et puis, finalement, on leur fait confiance une fois, deux fois, trois fois. Et on s'aperçoit un petit peu comme Joseph, que finalement, eux, ils sont dehors, mais que nous sommes toujours dans leur prison, dans la même prison. Et j'aime beaucoup, le chapitre se termine ainsi, et puis un autre reprend derrière. Et il est dit que 2 ans après, Dieu va donner un songe à Pharaon. Le Pharaon ne va trouver personne pour interpréter ce songe. Et là, les chansons vont dire, mais moi, je connais quelqu'un, il est en prison, là, c'est le petit gars Joseph. Il est bien, tu sais. Et puis, tout ce qu'il dit se réalise. Dieu va se servir des hommes. Et ce n'est pas la même chose lorsque Dieu se sert des hommes que lorsque nous servons des hommes. C'est complètement différent. Tout simplement parce que les hommes ne sont qu'un outil. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément l'outil en lui-même. C'est celui qui utilise l'outil. Tu as souffert parce que tu as pensé que ton échanson allait te délivrer de ta prison. Et tu y es toujours. Alors maintenant, fais confiance à Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tirer un trait sur les hommes. Ce n'est pas là mon propos. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas être simpliste. Mais notre priorité doit toujours se trouver dans celui qui utilise les hommes. Le prophète Ésaïe sans Dieu n'aurait été rien du tout. Le roi David sans Dieu n'aurait été qu'un simple homme. Les disciples, les apôtres, sans l'action du Saint-Esprit, n'auraient finalement rien accompli de particulier. Et pourtant, tous ces hommes ont fait du bien. Parce que Dieu les a utilisés. Et la médecine est quelque chose d'extraordinaire que Dieu utilise. Je le crois de tout mon cœur. Plutôt que de placer ta confiance dans les hommes, dans tes copains, dans tes collègues, dans tes amis, place d'abord ta confiance en Dieu. Et ainsi, tu feras autre chose que d'élargir les murs de ta prison. Mais tu sortiras de ta prison. Tu sortiras de ta prison. Alors, en conclusion, malgré la naïveté de Joseph dans ces 3 domaines, la promesse a demeuré et elle s'est tout de même accomplie. Merci Seigneur. Il en va de même. Malgré les erreurs de Joseph, Dieu a accompli sa promesse. Malgré les difficultés que Joseph a traversées, Dieu a accompli sa promesse. Il a fallu du temps, mais elle s'est réalisée. Et pour quelle raison? C'est qu'à chaque fois, on remarque que Joseph a conservé l'alliance avec Dieu. Il a conservé l'alliance avec Dieu. Il n'a pas été forcément irréprochable, parce que seul Jésus a vécu sans péché. Mais il a conservé l'alliance avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons de ceux qui conservons l'alliance avec Dieu afin que les promesses s'accomplissent. Et qu'ainsi, notre bien-être soit quelque peu favorisé, mais que surtout l'œuvre de Dieu avance. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous souhaitons. On va prier le Seigneur.